En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Erwan. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Aujourd'hui, nous abordons un thème difficile mais crucial, les violences intrafamiliales. Ces violences qui se jouent dans l'intimité des foyers, derrière les murs des maisons et qui touchent toutes les classes sociales, tous les âges sans distinction. Violences conjugales, violences sur les enfants, pression psychologique, agression physique, isolement, menaces, privations... Autant de visages d'un même fléau. Alors comment les repérer? Comment protéger les victimes? Quelles sont les démarches juridiques possibles? Et surtout, quelles sont les réponses de la société, des institutions et de la justice? Nous en parlons aujourd'hui avec des avocats du barreau du Val d'Oise que je remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Maître Marion Ménage.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'IDFM Radio, je crois pour la troisième fois.
C'est ça.
Merci.
Merci pour les invitations.
Bah ouais, mais c'est toujours un plaisir, Marion, de vous avoir avec nous. Vous êtes avocate au barreau du Val d'Oise, associée du cabinet MB Ménage et Bondou, qui est situé à Pontoise.
C'est ça.
Votre cabinet intervient en droit pénal, en droit de la famille, en droit des mineurs. Vous êtes une grande pénaliste de notre barreau. Vous accompagnez vos clients auteurs ou victimes dans des dossiers de mort au travail, de harcèlement scolaire et de violences faites aux femmes. Ancien membre du Conseil de l'Ordre, toujours membre des commissions pénales majeures et mineures du barreau, membre d'Initia Droit, vous intervenez régulièrement dans les médias en qualité d'experte métier. C'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Merci à vous.
À vos côtés, Maître Stéphanie Grandjean, bonjour.
Bonjour.
Merci de joindre cette émission Tous les droits. C'est votre première.
C'est ma grande première. Il faudra être extrêmement indulgent avec moi.
Mais vous nous serons très indulgents. Et surtout, c'est votre moment, votre espace pour parler de votre expérience, de vos bons conseils sur ce sujet très délicat. Vous êtes associée du cabinet Viera Grandjean.
Tout à fait.
Votre cabinet est situé à Deuil-la-Barre, je me
trompe pas. Tout à fait, pas très loin.
Votre cabinet intervient en droit pénal, en droit de la famille, droit bancaire et droit des affaires. Et vous intervenez aux côtés des femmes victimes de violences conjugales auprès de la Maison des Femmes de Villiers-le-Bel.
Tout à fait, c'est une grande nouveauté. Elle a à peine un an et demi, cette Maison des Femmes. Et elle accueille toutes les femmes victimes ou en grande souffrance. Il y a un pôle multiprofessionnel puisqu'il y a des psychologues, des sophrologues et des avocats. Tous les 15 jours, mon cabinet y est pour essayer d'accompagner et d'orienter toutes ces femmes.
Merci beaucoup, nous en reparlerons dans quelques instants. Merci et bienvenue d'être mes invités sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de Tous les droits. Une émission bien sûr à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Pour commencer cette émission, je propose toujours à mes invités de nous parler de leur parcours, comment ils sont devenus avocats, comment ils exercent aujourd'hui, pourquoi ils exercent dans certaines matières, et puis parler de leur autre casquette, parce qu'il y a des avocats, et puis il y en a qui deviennent experts, il y en a qui ont d'autres activités complémentaires. Alors Marion Ménage, commence par vous. Ma chère Marion, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment vous êtes devenue avocate? Quand est-ce que vous avez prêté serment? Et pourquoi vous avez dédié votre activité aux victimes ou aux auteurs dans le droit pénal, le droit de la famille, le droit des mineurs?
Alors moi, j'ai la grande chance d'avoir su très tôt ce que je voulais faire. Et dès la quatrième, je savais que je voulais faire du droit. Je ne savais pas encore si je serais avocate ou magistrate. J'ai longtemps hésité entre les deux. Et puis finalement, l'avocature était assez une évidence. J'ai toujours été déléguée de classe. Je crois que depuis la classe de sixième jusqu'à la terminale, j'ai toujours été celle qui portait la voix de mes petits camarades. J'ai toujours été celle qui avait envie de me battre, en tout cas, contre l'institution, contre l'injustice. Quand il fallait monter au créneau, j'étais toujours présente. étudiante. Donc, de façon assez naturelle, la fac de droit s'est imposée à moi. Et puis j'ai fini ce parcours d'avocate, puisque j'ai prêté serment en 2002, janvier 2002. Ça commence à dater un tout petit peu. J'ai démarré à Versailles, au sein du cabinet Liénard, Ardaillon, Liénard et Landon, où j'ai eu l'immense chance de tout apprendre. Je suis restée 8 ans dans ce grand cabinet pénaliste. Et j'ai rejoint Pontoise ensuite, ce qui m'a permis d'avoir un début de carrière entièrement dédié à la défense, c'est-à-dire que je n'assistais quasiment que des auteurs d'infractions pénales. Et arrivée sur Pontoise, pour le coup, je me suis mise à assister aussi des victimes, qui était pour moi une matière assez nouvelle, que j'ai trouvée passionnante, parce que l'accompagnement humain des victimes, c'est vraiment quelque chose de très important. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui se partage quasiment 50-50. J'assiste autant d'auteurs que de victimes. Et finalement, je trouve que c'est utile de part et d'autre. Je pense qu'on défend mieux les auteurs quand on sait ce que ressent une victime. Je pense qu'on assiste mieux une victime quand on est capable de lui expliquer aussi ce qui se passe dans la tête d'un auteur. Et finalement, je trouve mon équilibre avec ce partage moitié-moitié. J'ai ajouté une corde à mon arc qui est le droit de la famille, puisqu'aujourd'hui je fais aussi beaucoup de droit de la famille. J'assiste mes clients dans les divorces, les séparations, les gardes d'enfants, ce qui me permet là aussi d'avoir un équilibre que je trouve assez sain entre le pénal, qui est toujours infiniment dramatique, et puis le droit de la famille, où on a des préoccupations qui sont presque plus terre à terre, qui nous touchent tous, on connaît tous. Quelqu'un de divorcé, quelqu'un de séparé, quelqu'un qui se bat pour la garde de ses enfants, quelqu'un qui a un problème de pension alimentaire. On connaît pas forcément tous un trafiquant de drogue, par exemple. Finalement, le fait d'avoir ce volet droit de la famille, ça me permet d'avoir un ancrage peut-être plus dans le quotidien. Et ça fait relativiser beaucoup de choses. Et ça me permet d'avoir un recul sur mes dossiers. Et en tout cas, c'est cette plus-value-là que j'essaye d'apporter à mes clients.
Et donc, vous intervenez sur des dossiers concernant des femmes victimes de violences, alors ?
J'ai beaucoup de dossiers de femmes victimes de violences. D'abord parce qu'il y en a de plus en plus, parce que la parole se libère, parce qu'on a de plus en plus de plaintes. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut absolument que les femmes arrivent à se libérer de ça et qu'elles arrivent à aller pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Mais évidemment, la libération de la parole, elle s'accompagne d'un nombre croissant de dossiers. Donc j'accompagne beaucoup de femmes victimes de violences. J'accompagne aussi des auteurs de violences conjugales. C'est aujourd'hui une grosse partie de l'activité de mon cabinet.
Et vous intervenez aussi dans les médias en qualité d'experte métier. Donc on vous voit régulièrement sur les chaînes du groupe TF1. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette qualité d'experte métier ?
Alors, j'ai eu la grande chance d'être contactée par TF1 en 2020, quand ils se sont rendus compte que leurs consultants un peu extérieurs étaient très souvent des hommes. TF1 était très attaché à la parité. Ils étaient à 50-50 avec leurs journalistes en interne. Mais à la sortie du Covid, et quand ils ont fait le bilan, ils se sont rendus compte que leur chef de clinique, leur chef de service, leur directeur d'hôpitaux interviewés étaient à 90% des hommes. On avait Karine Lacombe qui faisait quelques plateaux télé, mais c'était quand même très très masculin tout ça. Et donc ils ont fait le choix de créer un programme qui s'appelle Experte à la Une. Ils recrutent chaque année 15 femmes, tous métiers confondus. Et ils les forment, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les femmes, nous n'osons pas prendre la parole, nous n'osons pas répondre oui quand on est invité sur un plateau télé. Alors, soit on a piscine, soit il faut s'occuper des enfants, soit c'est pas le bon horaire, soit on se sent pas légitime, soit on a peur, soit on a... Mais les hommes se posent tellement moins de questions. Les hommes, vous leur dites qu'il y a une caméra, ils foncent. Ils ne demandent même pas quel est le sujet. Ils savent qu'ils seront compétents quoi qu'il arrive. Donc, il était important pour eux de former des femmes à oser dire oui, à se sentir légitimes. Et ils ont parallèlement formé leurs journalistes en interne en disant « appelez des femmes, arrêtez d'appeler des toutologues de plateau qui vont vous dire oui dans la seconde, mais qui seront pas forcément très pointus sur le sujet, appelez des femmes ». Et donc, ça fait maintenant 6 ans que ce programme existe au sein de TF1. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette première promotion. Et aujourd'hui, j'interviens chez tous les médias qui m'invitent. Alors, ce matin, c'est IDFM Radio, mais j'ai eu la chance cette semaine, parce que l'actualité... fait divers et malheureusement riche en cette fin d'année scolaire, début d'été. J'ai fait les plateaux de France Télévisions, j'ai fait les plateaux de TF1, j'ai fait les plateaux de LCI, j'ai été invitée par la chaîne parlementaire. Parce que il faut aller parler de nos métiers, il faut aller parler de ces sujets. Les femmes victimes, c'est un sujet qui est très présent, dont on ne parle, je pense, pas suffisamment, avec des idées préconçues, des angles méconnus. Et donc, il faut aller en parler, il faut aller en parler sur les plateaux. Et il faut que les femmes qui sont expertes dans leur domaine, quel qu'il soit, mesdames, si vous nous écoutez ce matin, osez aller parler de votre quotidien, de ce que vous savez faire. Vous êtes les mieux placées pour en parler.
Merci de le rappeler, Maître Marion Ménage. Merci de votre éclairage qui est indispensable. Vous l'avez rappelé, l'actualité est malheureusement consacrée en ce moment à ces violences faites aux femmes, ces violences faites aux enfants. Et c'est un sujet qui suscite forcément beaucoup de passion. Et donc, voilà, vous réintroduisez de la rationalité en expliquant votre prisme et puis l'angle juridique qu'on ne doit jamais perdre de vue dans ces situations souvent dramatiques. On aura l'occasion d'en reparler. Je précise que vous intervenez aussi en qualité, vous avez été membre du Conseil de l'Ordre et vous êtes toujours membre des commissions pénales majeures et mineures du barreau. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette casquette ?
Alors, le barreau du Val-d'Oise met en place au service du justiciable des avocats de permanence. C'est-à-dire que tous les jours, quoi qu'il vous arrive, que vous soyez placé en garde à vue, que vous soyez victime de violence, vous avez un avocat à votre disposition, puisque le barreau du Val-d'Oise, tous les jours, met des avocats au service des justiciables, que ce soit en garde à vue, que ce soit au sein du tribunal, que ce soit des auteurs ou que ce soit des victimes, que ce soit des majeurs ou que ce soit des mineurs. Donc c'est un service rendu aux gens qui est extrêmement précieux. Les avocats sont, j'allais dire, presque bénévoles quand ils font ça, puisque les interventions sont indemnisées par l'État, mais très faiblement indemnisées. Donc c'est vraiment du service rendu et c'est vraiment se mettre au service des gens. Donc profitez-en. Vous avez cette chance-là sur le barreau du Val-d'Oise d'avoir des avocats à votre service. Chaque jour, ça tourne. On essaye de le faire uniquement sur volontariat et on a l'immense chance d'avoir beaucoup de confrères volontaires. Donc on arrive à être tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au service des gens.
Merci beaucoup. Je vous propose de marquer une première pause musicale avant de retrouver mes deux invités, toutes deux avocates au barreau du Val-d'Oise, pour échanger autour du thème les violences intrafamiliales. À tout de suite.
I saw you through the haze, sunshine in the gray. Footprints made of water just washed away the pain. Yeah. You moved like time had stopped. Yeah. The storm became your stay. Yeah. And every step you took, it turned my tears to flames.
Dancing in the rain.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. J'ai le plaisir de recevoir deux avocates du barreau du Val d'Oise, maître Stéphanie Grandjean et maître Marion Ménage, pour échanger sur le thème des violences intrafamiliales. Avant notre première pause musicale, Marion Ménage nous parlait de son parcours et nous étions à ce moment-là en train d'aborder votre autre casquette de membre du Conseil de l'Ordre et de membre des commissions pénales majeures et mineures du barreau du Val d'Oise, mais vous êtes également membre du réseau Initia Droit. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi, s'il vous plaît ?
Alors, Initia Droit, c'est une association assez extraordinaire à laquelle le barreau du Val d'Oise a été le premier barreau français à adhérer. Et nous intervenons dans les collèges et dans les lycées pour aller faire partager le droit à nos collégiens et à nos lycéens. Le droit est partout. Partout dans notre vie quotidienne, quand vous allez acheter une baguette, c'est déjà un contrat que vous signez. Donc vraiment, ça s'infiltre partout, par tous les pores de notre vie. Et c'est important d'aller porter cette parole-là auprès des plus jeunes. C'est important, moi, de mon point de vue d'avocate pénaliste, aussi de les sensibiliser à ce que sont les infractions pénales, à ce qu'on risque quand on commet des infractions pénales, au fait qu'il faut prendre la parole quand on est victime d'infractions pénales, de les sensibiliser au harcèlement scolaire, de les sensibiliser aux violences, parce que les bagarres en cours de récré, ça existe aussi, de les sensibiliser au monde de la justice et peut-être de déclencher parfois des vocations. Donc j'interviens, oui, très régulièrement. Alors souvent, c'est à la demande des professeurs d'histoire-géographie qui font de l'EMC. Ça peut être aussi à l'initiative de professeurs de français ou de littérature. Je pense au collège de Menucourt, par exemple, où il y a un cours d'éloquence, donc pour lequel je suis régulièrement sollicitée, avec une prof extraordinaire qui fait des miracles avec ses élèves. Et voilà, Initia Droit est vraiment une très chouette association. Si vous avez envie dans les collèges et les lycées de vos enfants qu'on vienne parler de droit, et ben vous n'hésitez pas, parlez-en aux profs d'histoire géo et profs de français, et pour tous les profs qui nous entendent, n'hésitez pas à nous solliciter, on intervient dans l'intégralité des établissements du Val d'Oise.
Collège et lycée.
Ouais, de la 6e à la terminale.
D'accord, pas le primaire encore.
C'est peut-être plus difficile.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, on parle beaucoup en ce moment des violences subies par beaucoup d'enfants mineurs. On parle quand même trois enfants par classe qui seraient victimes d'agressions sexuelles, par exemple, donc de la maternelle jusqu'à malheureusement des fois même en devenant en majeur. Et donc j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que le primaire, la maternelle et le primaire, c'est un peu un espace qui est déserté. Enfin, c'est un peu une zone où les professionnels du droit n'ont pas forcément vocation ou habitude de venir intervenir.
Une zone plus difficile à investir, je pense, pour les confrères, parce que avec des enfants très jeunes, il faut adapter. Il faut adapter le sujet, il faut adapter le vocabulaire. Et quand on a l'habitude, nous, professionnels du droit, de parler de nos métiers, on n'a pas forcément l'habitude de se mettre à la hauteur d'un très jeune public. Donc je pense que c'est un peu pour ça que les confrères ont du mal à y aller. Et en tout cas, au sein de l'association Initia Droit, c'était pas le cœur de cible quand l'association a été créée. Mais c'est aujourd'hui une vraie réflexion, parce qu'il y a besoin de former les confrères pour y aller, il y a besoin d'intervenir auprès des plus jeunes. Vous avez raison, Sonia, les enfants victimes sont malheureusement extrêmement nombreux, de moins en moins invisibilisés, et donc c'est important de pouvoir aussi aller toucher ce public-là. J'étais la semaine dernière dans un comité exécutif qui réunissait tous les intervenants du département sur la prostitution des mineurs. Et bien, figurez-vous que c'est un sujet qui commence à toucher les écoles primaires. À Cergy, on a ce sujet qui vient sur la table avec des petites filles de CM2. Donc il va falloir investir cet espace-là et il faut maintenant aller parler de droit aux plus jeunes, parce que malheureusement, ce sont des sujets qui les concernent.
Oui, c'est pour ça que, alors je sais qu'il y avait une directive ou une circulaire à destination des écoles maternelles et primaires pour aborder alors les sujets du consentement, de l'égalité entre les garçons et les filles, mais pas abordés peut-être par des professionnels du droit. Et on en reparlera peut-être hors antenne, et c'est peut-être des réflexions qu'on mûrit chacun de notre côté. Mais j'ai la faiblesse de croire que dans quelques années, même au sein des écoles maternelles et primaires, les enfants pourront être sensibilisés à leurs droits. droits et à ces sujets, mais c'est les premiers concernés. Donc je ne comprends même pas qu'ils ne soient pas plus informés. Enfin, merci pour cette casquette encore, Maître Marion Ménage. Et puis alors, vous avez quand même à cœur de faire part de votre expertise auprès même de vos confrères, puisque vous avez récemment participé au colloque organisé par les barreaux du ressort de la Cour d'appel de Versailles et par l'EDA, qui est l'école des avocats du ressort de la Cour d'appel de Versailles, autour de l'avocat face aux médias.
Oui, parce que c'est une place qu'on nous demande de prendre de plus en plus. Et je crois qu'à chaque fois qu'on allume son poste de radio ou son poste de télévision, on voit un avocat face à un micro quelque part. Et c'est important d'en parler avec les confrères, c'est important d'en parler avec nos futurs confrères qui sont les élèves de cette école d'avocats de Versailles, parce qu'on n'est pas formé à ça. À la fac de droit, on nous apprend à faire du droit. C'est déjà très bien, mais on nous apprend pas à et si on a un dossier médiatique et si un journaliste vous tend un micro, eh ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on répond pas? Est-ce qu'on part en courant? Est-ce qu'on se répand? Est-ce qu'on jette le nom de notre client en pâture? Donc tout ça, ça se travaille, ça se réfléchit. Il y a des réflexes à avoir. On a une profession qui est une profession réglementée. On doit respecter les principes de notre profession, qui sont les termes de notre serment, qui sont la dignité, l'humanité. Et ça, on doit les garder en tête. Avant d'ouvrir la bouche, donc d'abord on réfléchit et ensuite on parle. C'est pas toujours dans l'intérêt de notre client que d'avoir son avocat qui va se répandre sur les plateaux de télévision. D'abord parce qu'on est en 2026, que tout reste sur Internet, que peut-être que notre client il a des enfants, peut-être que ses enfants un jour ils vont chercher un stage de troisième, ils vont chercher un stage de seconde, ils vont chercher un premier job, et quand on va taper leur nom sur Internet, est-ce qu'on a très envie d'apprendre que leur papa était un violeur? Est-ce qu'on a très envie d'apprendre que leur papa était un braqueur de banque? Peut-être pas. Donc c'est pas forcément dans l'intérêt du client que son nom s'étale dans la presse. Donc ça, il faut y penser quand on est avocat, avant d'aller, flatter son ego et se précipiter devant une caméra. C'est important de penser d'abord à l'intérêt de nos clients. Et en même temps, c'est important de parler de notre métier. Et si nous, avocats, nous n'y allons pas, qui va y aller mieux que nous? Les magistrats, ils vont très peu. D'abord parce qu'ils sont fonctionnaires, qu'ils ont un devoir de réserve. Donc ils sont pas très confortables avec cet exercice. Les parquetiers y vont, le ministère public, parce que eux ont le droit de parler des dossiers, mais ils sont encore très frileux et pas très confortables avec l'exercice, mais ça vient. On leur apprend aussi à l'école de la magistrature, mais leur parole reste très rare. Et donc la parole du droit, eh ben c'est important qu'elle soit portée, et qui mieux que les avocats pour le faire? Donc autant les avocats qui parlent de leur dossier, de leurs clients, c'est un exercice très périlleux, autant aller parler de notre métier, expliquer, décrypter l'actu, ça c'est essentiel et ça doit être fait par des avocats. Donc tout ça s'apprend, ça se travaille, et si je peux apporter une toute petite pierre à l'édifice et aider mes confrères et mes futurs confrères à maîtriser autant que possible cet exercice, eh ben je le fais avec grand plaisir.
Votre intervention a de beaux jours devant elle, parce que on voit fleurir aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de confrères, alors soit qui font des podcasts, des capsules, ou qui se filment dans leur quotidien aussi, hein. On voit de plus en plus de confrères qui se filment pour aller en audience, qui racontent des cas pratiques. Alors, c'est aussi un exercice très nouveau. Donc, il faut peut-être encore des ajustements. Mais vous avez raison de rappeler qu'on est régi par... on est une profession réglementée, et que nous aussi, on a des règles à respecter. Et que si on ne les respecte pas, on se fait sanctionner par notre bâtonnier. Donc, les avocats doivent toujours, eux, de leur côté, bien réfléchir. Vous avez raison de le dire, avant de publier ou avant de s'exposer. Mais ils sont aussi scrutés par leurs pairs quand il y a des dérapages. On a pu le voir dans l'actualité, d'ailleurs, certains confrères qui avaient pu être aussi sanctionnés par leur ordre pour des communications...
C'est ça, un peu hasardeuse.
Je cherchais le mot, voilà. Maître Marion.
Sachant que les critères de notre serment, les termes de notre serment, ils s'imposent à l'avocat tout le temps. C'est-à-dire que on ne cesse pas d'être avocat quand on raccroche la robe. On est avocat H24 et dans tous les aspects de notre vie. Ce qui veut dire que si on se filme dans son jardin en bikini en train de se trémousser sur le nouveau titre du moment et qu'on poste ça sur un réseau professionnel, on peut être sanctionné parce que notre dignité elle se maintient et elle doit être notre colonne vertébrale tout le temps. Pas simplement quand on sort d'un tribunal ou quand on sort de notre cabinet et quand on raccroche notre robe. Donc c'est important de jamais l'oublier. On n'est pas avocat à temps partiel, on est avocat full-time et sous tous les aspects de notre vie.
Merci pour ce rappel. Je vais donc supprimer ma dernière vidéo Instagram, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maître Mario Ménage, Maître Stéphanie Grandjean. Alors, merci encore d'être venue à ce micro ce matin.
Moi.
Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous expliquer, mais comment vous avez décidé de devenir avocate? Quand est-ce que vous avez prêté serment? Et pourquoi le barreau du Val d'Oise? Et pourquoi le droit de la famille, le droit pénal consacré aux victimes? Expliquez-nous.
Alors moi, contrairement à Marion, ça n'a jamais été une grande évidence. Quand j'étais petite, je rêvais pas d'être avocate. J'étais au lycée, j'étais face à l'échéance du bac. Et donc, l'après-bac... Je suis allée faire des tests auprès du CPE. Il s'avérait que j'étais, il y avait strictement rien qui ressortait à part un côté artistique. Alors je ne sais absolument pas dessiner. Et donc un peu par hasard, je me suis dirigée dans le droit en me disant tiens, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Et tout de suite, ça m'a passionnée. Dans un premier temps, je me suis vue magistrate. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, je me suis dit, oula, prendre des décisions, c'est quand même beaucoup plus confortable de défendre quelqu'un et son positionnement et d'essayer de le faire bouger dans son positionnement et dans sa défense que de prendre une décision avec les impacts que ça peut avoir au quotidien dans sa vie. Donc c'est comme ça que je suis devenue avocate. J'ai prêté serment en même temps que Marion. On se connaissait pas à l'époque. Elle, c'était pour le barreau de Versailles. Moi, c'était pour le barreau de Pontoise parce que je suis valdoisienne. Je suis arrivée très petite sur ce département, j'habite dans ce département, j'adore ce département et ça multifacette. Et du coup, j'ai commencé à exercer dans un cabinet généraliste, à dominante tout de même droit des personnes, puisque à l'époque on appelait ça des maîtres de stage. Mais lors de ma collaboration, j'étais dans un cabinet qui était un cabinet qui défendait les associations tutélaires. Donc j'ai été très vite confrontée aux personnes vulnérables et à tout ce qui peut en découler, notamment le fait d'être victime de violences, enfin de tout ce qu'on peut imaginer face à des personnes d'une grande vulnérabilité. Et c'est ce qui m'a un peu... motivée à continuer dans cette direction tout en ayant une formation puisque j'ai fait un DEA de sciences criminelles à Nancy. Je me suis quand même, j'ai quitté mon petit Val d'Oise pour aller passer une année à Nancy qui était exceptionnelle. Ça m'a permis aussi de découvrir que la France, c'est pas que la région parisienne. Et du coup, j'ai pu toucher du doigt tout ce qui est sciences criminelles, victimologie, mais aussi de l'autre côté du miroir. Et là aussi, ça a été une grande découverte. C'est extrêmement passionnant. L'être humain est passionnant dans son côté noir, mais aussi dans son côté beau. Et c'est ce qui me motive aussi en me disant que derrière chaque acte horrible, il y a une personne. Et cette personne n'est pas forcément horrible en elle-même. Donc c'est ce que j'essaye au quotidien de mettre en place avec mes clients, que ce soit d'un côté de la barque ou de l'autre, comme Marion. En fait, il faut un équilibre. Pour moi, pour être un bon avocat au service des victimes, il faut savoir ce qui se passe dans la tête des auteurs. Donc il faut aussi les accompagner pour avoir un équilibre, pour avoir un recul, pour pouvoir essayer de temporiser un peu, de tempérer, de ne pas être emporté par des envies de mettre toujours en place les mêmes choses et d'avoir simplement une vision d'être défenseur pur et dur de la veuve et de l'orphelin. Il y a aussi besoin de défendre tout un chacun.
Merci pour ces précisions. J'ai encore des questions concernant votre parcours, mais il est l'heure de faire une petite pause en musique. Je vous retrouve dans quelques secondes avec mes invités de l'émission Tous les droits consacrés aujourd'hui aux violences intrafamiliales. À tout de suite. I'm chasing the tide, it's calling me loud. Feet on the sand, heart in the clouds. The rhythm it pulls like a whispering vow. Yes.
IDFM, 98FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio, sur le 98FM, sur IDFM98.fr. Nous poursuivons cette émission avec le parcours de Maître Stéphanie Grandjean, avocate au barreau du Val d'Oise, qui nous expliquait son parcours, la date à laquelle elle a prêté serment, son parcours d'études de sciences criminelles à Nancy. Alors aujourd'hui, Maître Stéphanie Grandjean, donc vous êtes associée au sein d'un cabinet?
Tout à fait, à Deuil-la-Barre. Mon associé a une activité totalement différente. Elle, ça va être du droit du travail, droit des affaires, mais voilà, on est assez complémentaires, parce que quelquefois, bah, tout se recoupe, et on est toutes les deux depuis des années, on se connaît depuis la fac.
Ah, c'est une longue amitié.
C'est une très longue amitié.
Une belle relation de travail, alors.
Tout à fait.
Et donc, vous exercez, donc, vous, en droit pénal, en droit de la famille, et vous indiquiez que vous aviez des dossiers à la fois pour les auteurs et pour les victimes.
Oui.
Ce qui est, bon, comme Marion Ménage nous l'expliquait précédemment, c'est pas le cas de tous les confrères. Il y a des confrères qui décident aussi de ne faire que des dossiers pour des victimes ou que des dossiers pour les auteurs. Et vous nous expliquiez que voilà, c'était un positionnement qui était OK pour vous. Vous aviez donc l'éclairage des uns et des autres. Mais vous avez aussi une particularité. Par contre, vous intervenez aux côtés des femmes victimes de violences conjugales auprès de la Maison des Femmes de Villiers-le-Bel.
Tout à fait.
Vous expliquez que c'était une activité récente.
Oui, parce que c'est un projet qui a vu le jour il y a à peu près un an et demi. La ville de Villiers Belle a mis en place une maison des femmes. Donc c'est véritablement d'ailleurs une maison dans laquelle vous avez la possibilité d'avoir accès à tout un panel d'intervenants, que ce soit des associations pour les aider à les reloger dans le cadre des violences conjugales lorsqu'il y a une urgence manifeste et qu'il faut impérativement sortir madame et les enfants. Alors il y a des possibilités, Marion en parlera après, concernant les procédures qui peuvent être mises en place, mais quelquefois on n'a même pas le temps de mettre en place des procédures, ou quelquefois ben les femmes nous disent moi je veux partir de cet environnement parce que l'hébergement va être chez la famille de monsieur, parce qu'à côté il y a les copains de monsieur, donc elles veulent changer de quartier, donc vous avez tous ces professionnels qui sont là au sein de cette maison des femmes qui accueille toutes les femmes. Il n'y a même pas de limite d'âge. On peut avoir des très très jeunes femmes, comme on peut avoir des femmes beaucoup plus âgées et qui, à un moment de leur vie, ont besoin de se retrouver. Villiers-le-Bel, c'est une ville assez multiculturelle, donc c'est aussi très important d'avoir ce pôle qui permette à toutes ces dames qui ont un passé difficile ou pas de se retrouver, d'avoir un endroit où poser leurs valises, où poser leurs angoisses, où poser des mots sur ce qu'elles vivent. Et donc tous les 15 jours, mon cabinet y va, le vendredi après-midi, et puis on essaye au mieux de les prendre en charge, au mieux de les rassurer et au mieux de leur dire ce qu'il faut faire, comment le faire, et quelles sont les pistes qu'il faut voir d'un point de vue juridique, mais aussi humain, en fait.
Donc, c'est tous les 15 jours. Donc, les femmes s'inscrivent à ces consultations juridiques, j'imagine.
Oui,
et
tout
votre
à fait.
Cabinet les reçoit le vendredi après-midi.
Alors, on se déplace. On va dans cette maison des femmes qui s'appelle Maison Belle et Vie. On s'y déplace. Alors, effectivement, on a un petit planning, mais si une femme arrive, toque à la porte en disant « j'ai une urgence », bien évidemment qu'on les reçoit immédiatement. Et avec mon associé, on a indiqué que s'il y avait un besoin quelconque entre les deux vendredis concernés, on est joignable très facilement, que ce soit sur notre portable, au cabinet, pour pouvoir intervenir le plus vite possible.
Merci pour ces précisions, merci pour votre engagement auprès de toutes ces femmes, merci d'avoir partagé avec nous votre parcours. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai reçu un grand nombre de questions que j'ai synthétisées. Alors, nous avons un temps limité dans le cadre de cette émission, mais ça permet à nos auditrices et à nos auditeurs, voilà, d'avoir des pistes de réflexion, des bons conseils, des aiguillages de nos experts avocates au barreau du Val d'Oise pour approfondir ou se renseigner plus en avant sur des problématiques qui pourraient les concerner. Maître Stéphanie Grandjean, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les infractions pénales spécifiques aux violences intrafamiliales et quelles sont les peines encourues ?
Alors, il n'y a pas véritablement d'infraction pénale spécifique. En fait, le caractère intrafamilial est une circonstance aggravante d'infraction, je dirais, classique. Tout le panel des infractions de violence volontaire, les infractions, ça peut aller malheureusement jusqu'au décès de la personne, de meurtre, de coup mortel, etc. Le caractère intrafamilial va être une circonstance aggravante. Donc, par exemple, si vous êtes victime de violence physique inférieure ou égale à 8 jours, normalement c'est une contravention. Si c'est par votre conjoint, ex-conjoint ou si c'est par ascendant, là ça devient un délit et vous encourez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc on peut pas dire qu'il y ait d'infraction spécifique avec un numéro du code pénal qui vient vous dire que la violence sur son épouse, ça s'appelle... D'ailleurs, un féminicide, c'est dans le cadre du langage courant, mais ce n'est pas juridiquement le cas. Donc, il y a une petite spécificité, si on peut appeler ça comme ça, c'est lorsqu'on parle de violence habituelle. Là, effectivement, c'est une infraction spécifique, mais ça peut être des violences habituelles sur mineurs de 15 ans ou sur son conjoint, son ex-conjoint, puisque les violences intrafamiliales ne s'arrêtent pas à la porte du domicile. Quelquefois, c'est aussi des violences qui ont lieu entre ex-conjoints ou par un ex-conjoint sur son ex-conjoint.
Merci pour cette précision importante. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer la différence pour la victime entre le dépôt d'une plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile ?
Alors, ce sont deux choses totalement différentes. Le dépôt d'une plainte simple, c'est un peu celle, je dirais, classique. Quand ce qu'on vous dit, allez déposer plainte, vous allez toquer ou sonner au commissariat du coin, à la gendarmerie du coin. Vous pouvez aussi déposer plainte entre les mains du procureur de la République par courrier recommandé. L'avantage d'être une procédure peut-être un peu moins lourde que la plainte avec constitution de partie civile. Le seul désavantage, c'est que ça n'interrompt pas la prescription, donc le délai de prescription. Donc si le commissariat, la gendarmerie dort pendant un certain nombre d'années, votre plainte en fait perd tout effet. Une plainte avec constitution de partie civile, en fait, c'est entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de votre domicile ou du lieu de commission des faits. C'est un peu plus lourd, c'est-à-dire qu'en plus, selon vos revenus, vous avez une consignation à verser. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de revenus, que vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, bien évidemment, il n'y a pas de consignation. Mais si vous avez un peu de revenus, vous pouvez avoir une consignation et ça peut aussi bloquer beaucoup les choses. L'avantage, c'est que vous avez accès au dossier tout de suite. Alors que lorsqu'il y a une enquête préliminaire auprès des services de police diligentés, vous n'avez pas accès au dossier. Vous n'avez accès au dossier qu'une fois la décision de renvoi devant un tribunal. L'avantage devant un juge d'instruction, c'est que vous avez accès au dossier, mais vous ne pouvez pas non plus saisir un juge d'instruction pour comme ça, de manière, il faut quand même démontrer que vous avez dans un premier temps fait cette plainte simple et qu'il ne s'est rien passé. Et du coup, ça limite un peu. C'est beaucoup plus long, en théorie, puisqu'un juge d'instruction, une instruction, on estime que c'est toujours un peu plus long. Maintenant, dans les faits, vous avez aussi des plaintes auprès de votre commissariat, de votre gendarmerie, qui prend énormément de temps. On en a malheureusement l'illustration dans ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Donc voilà, ce sont deux modes de saisine et deux modes de plainte qui sont totalement différentes.
D'accord, merci pour ces précisions. En parlant des délais d'instruction des plaintes simples ou des plaintes avec constitution partie civile, je ne sais pas si vous vouliez réagir à l'actualité, puisqu'il y a une critique en ce moment vive concernant l'absence d'instruction de ces plaintes, ou tantôt c'est la faute des magistrats ou le manque de moyens. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ces éléments ?
Alors, pour l'affaire qui secoue notre pays actuellement, je ne vais pas me prononcer, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement dans les faits. Ce que je sais et ce qui relève de notre quotidien, c'est effectivement ce sentiment qu'une fois que la plainte est déposée, très souvent, il n'y a un peu rien qui se passe pendant un certain temps. C'est pas un manque ne pas prendre en considération la gravité des faits, c'est que on est face à quelque chose qui est manifeste et ça fait des années que la profession le dénonce. On a un manque de moyens évident. Alors à chaque fois, vous allez avoir sur les plateaux tout le monde qui va venir vous dire oui, c'est la responsabilité des magistrats, c'est pas mes copains, hein, je suis pas là pour les défendre. Mais honnêtement, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. La justice est dans un état catastrophique. Donc aujourd'hui, il faut pas s'étonner. Il faut pas feindre de découvrir le problème, que ce soit police, gendarmerie ou magistrature. Il manque de moyens, il manque de personnel, il manque de volonté de pouvoir doter notre pays d'un véritable système judiciaire efficace. Tant que vous n'aurez pas tout ça qui sera mis en place, c'est pas possible. Vous avez l'office qui a été mis en place pour la lutte contre la pédopornographie. Ils sont 40 pour toute la France. C'est pas possible. C'est totalement inimaginable. Dans les autres pays européens, c'est pas du tout ce chiffre qui est annoncé. Alors, en grande pompe, on a créé cet office. On a traversé les hommes politiques ont traversé les plateaux en disant on a mis en place. C'est une lutte prioritaire et on ne met pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui sclérose un petit peu tout le système.
Mais c'est important de le préciser puisque nous aussi nous sommes tributaires en tant qu'avocats de ces délais hein, puisqu'on défend des victimes et a fortiori quand ils viennent dans nos cabinets et que la réponse est toujours la même, on va relancer, on va prendre attache auprès du commissariat ou du juge d'instruction, c'est en cours. On a aussi à recueillir cette frustration du temps qui s'écoule sans que les choses avancent. Peut-être préciser que les avocats peuvent vous assister alors à quel moment au moment du dépôt de la plainte, une fois que la plainte est déposée pour prendre attache auprès des services de police, est-ce que vous pouvez intervenir, vous, en amont de la...
Alors, très souvent, au moment du dépôt de la plainte, on n'est pas là, parce que ça intervient dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent. On peut être là, moi ça m'est déjà arrivé d'être présente, ou même de déposer plainte pour une de mes clientes extrêmement âgée, 98 ans, qui ne pouvait pas se déplacer. Donc j'ai organisé avec le commissariat d'Argenteuil un rendez-vous, j'ai déposé plainte pour ma cliente, parce qu'il fallait pallier à cette grande difficulté. Après, pour le suivi, oui, pour le suivi, on doit les accompagner, on doit essayer régulièrement de téléphoner, effectivement, de dire oui, bonjour, maître Intel, c'est pour savoir où en est la plainte. Ah, c'est toujours en cours. Mais on se dit qu'à force de les harceler, peut-être que le dossier va remonter un petit peu la pile, parce qu'ils en auront un petit peu marre de nous entendre au téléphone. Même si, encore une fois, je ne jette pas la pierre sur le service enquêteur, je sais qu'ils sont appelés par mon et par vos. Mais oui, là, ça va être notre cœur d'intervention, mais c'est pas vraiment de la défense à ce niveau-là, c'est plus de la gestion pour essayer de faire avancer un peu les choses.
Merci pour toutes ces précisions. J'ai encore des questions pour vous, maître Stéphanie Grandjean. Marion Ménage a également reçu de nombreuses questions que nous allons aborder juste après une nouvelle pause musicale. Restez avec nous sur IDFM Radio.
Dans ses yeux pistaches, je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place. À partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux quand tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la femme, mais y'a rien à faire. Je raccroche mon tête, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça. Ça tombe à pic. Mais ça pique, pique, pique un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis mon 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis mon 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des times et des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout la haine. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout la haine. Ça fait pic pic pic
IDFM Radio, 98 FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux avocates au barreau du Val d'Oise, maître Stéphanie Grandjean et maître Marion Ménage. Nous abordons aujourd'hui le sujet délicat des violences intrafamiliales. Maître Marion Ménage, j'ai reçu des questions pour vous où il s'agit de la protection de ces victimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et dans quel délai solliciter une ordonnance de protection ?
Alors, l'ordonnance de protection, c'est une procédure devant le juge aux affaires familiales qui a été conçue pour intervenir très vite lorsqu'une femme est victime de violence. Très vite, ça veut dire qu'avec une ordonnance de protection, en 6 jours, vous avez un juge qui vous rend un jugement. C'est vraiment une procédure d'urgence. Elle a été créée parce que, initialement, quand une femme allait se plaindre de violence, le premier réflexe, c'était de la sortir du domicile, de lui filer un bon d'hôtel, de la loger par le 115, et monsieur restait quand même tranquillement peinard au domicile, vautré dans son canapé, tandis que madame était dans un hôtel miteux. Et donc, il a été réfléchi au fait que c'était pas tout à fait normal que ce soit la victime qu'on vienne exfiltrer. Et donc, cette procédure, elle permet en 6 jours d'avoir un juge qui vient statuer sur la situation, et surtout qui va pouvoir venir attribuer le logement à madame, et qui va pouvoir dire à l'homme violent, c'est toi qui t'en vas. Donc c'est une procédure qui est évidemment exceptionnelle, qui doit intervenir dans les cas les plus graves. Il faut pour cela remplir quelques conditions. La première, c'est que on doit être un couple ou un ancien couple. On doit être soit marié, soit pacsé, soit juste concubin. On n'est pas obligé de cohabiter. Ça peut être un couple sans que les gens vivent sous le même toit, mais si la situation de danger est importante, ça fonctionne. Et il faut un danger qui soit vraisemblable et actuel. Vraisemblable, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait un petit peu quelque chose à apporter au juge. En général, un dépôt de plainte. Ça peut être un certificat médical. Ça peut être des photographies de blessures. Et il faut que ce soit actuel. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de venir protéger la femme en urgence. Là, tout de suite, maintenant. Si finalement le couple est déjà séparé, si chacun a récupéré ses petites affaires et qu'ils habitent à 200 km d'écart, quand bien même les violences commises 3 jours avant seraient gravissimes, finalement, il n'y a plus forcément d'urgence à intervenir pour une mise en protection. Donc il faut vraiment qu'on ait un danger vraisemblable, pas forcément établi juridiquement, on n'est pas obligé qu'il y ait une condamnation, mais qui soit également actuel. Et si on a ça, eh bien cette ordonnance de protection qui va être prise par le juge aux affaires familiales, je vous le disais, en moins de 6 jours, ça va permettre de mettre en place tout un tas de mesures. Certaines ont pour objectif de protéger la victime, d'éviter que ça se reproduise. Donc là, on va pouvoir imposer à monsieur une interdiction de revenir au domicile. On va pouvoir mettre à monsieur un bracelet anti-rapprochement. On va pouvoir lui interdire de paraître à tel ou tel endroit, par exemple le travail de madame, par exemple l'école des enfants. On va pouvoir dissimuler l'adresse du nouveau domicile de madame si elle ne souhaite pas rester dans le domicile conjugal. Ça, ce sont des mesures qui ont pour but de protéger la victime et d'éviter que ça recommence. On va avoir également des mesures qui vont concerner le logement. On peut même avoir des mesures qui vont venir concerner l'animal de compagnie, figurez-vous. Oui. C'est-à-dire que si madame, elle veut partir avec son chien, elle peut, si elle n'a pas envie de laisser Kiki avec monsieur. Parce que finalement, j'ai envie de vous dire, quand on n'aime pas les gens, on n'aime pas les bêtes et inversement. Et que si madame, elle est en danger avec ses enfants ou sans ses enfants, elle n'a pas forcément envie de laisser quelqu'un d'autre de vulnérable, c'est-à-dire l'animal, aux prises avec un monsieur qui va être très énervé de la situation, eh bien le juge peut même venir statuer sur le sort de l'animal de compagnie. Et puis il va y avoir évidemment des mesures concernant les enfants, parce que c'est peut-être là le cœur aussi du nœud. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit « Ah ouais, c'est pas un bon mari, mais c'est un bon père. » Bah non, en fait. Bah non. Quand on est capable d'être un homme qui tape sur sa femme, on n'est pas un bon père. Quand on est capable d'être un homme qui met sur la tronche de la mère de ses enfants, on n'est pas un bon père. Et donc, c'est important que le juge vienne se pencher sur la situation globale de cette famille. Il faut mettre madame à l'abri, mais il faut aussi dire ce qu'on fait des enfants. Et est-ce qu'on permet ou pas à monsieur de garder son autorité parentale? Est-ce qu'on va lui permettre de continuer à prendre des décisions dans l'intérêt de ses enfants s'il est même pas capable de ne pas être un mari violent? Est-ce qu'on va lui permettre de continuer à voir ses enfants? Et si c'est le cas, dans quel cadre? Est-ce qu'il peut les prendre en week-end? Est-ce qu'il peut partir en vacances avec eux? Ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt mettre en place des mesures dans un centre médiatisé avec des tiers qui vont être là pour surveiller que la visite se passe bien. Est-ce que on interdit totalement tout contact? C'est possible. Le juge peut demander l'audition de l'enfant, mais comme on est vraiment sur une procédure très rapide, puisqu'il faut qu'en 6 jours on ait une décision, c'est pas forcément la procédure la plus adaptée pour aller recueillir la parole de l'enfant. Donc voilà, c'est une procédure d'urgence qui permet d'intervenir dans des situations extrêmes pour venir protéger une femme et les enfants. On n'a pas véritablement de procédure similaire qui ne concernerait que les enfants. C'est-à-dire qu'un papa violent, s'il cogne pas aussi sur madame, on n'a pas grand-chose aujourd'hui qui nous permet de venir protéger les enfants. C'est dans les tuyaux. C'est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale. On va, je pense, avoir dans les mois qui viennent une ordonnance de sûreté qui va être conçue et qui sera là uniquement tournée vers la sauvegarde de l'enfant. Pour l'instant, on protège la femme et les enfants qui sont presque un dommage collatéral. Avec cette ordonnance de sûreté qui est en train d'être réfléchie, on va prioriser l'enfant et on va pouvoir intervenir pour protéger un enfant maltraité.
Merci pour toutes ces précisions, c'est extrêmement clair. L'ordonnance de protection, donc vous indiquez que le juge a un délai de 6 jours pour rendre une ordonnance, c'est un délai qui est tenu par exemple à Pontoise, c'est un délai impératif?
Oui.
Oui,
d'accord. Ah oui, c'est impératif. Okay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la demande d'ordonnance est déposée, le juge doit tenir son audience et rendre sa décision en moins de 6 jours. Précision importante, l'assistance par un avocat, elle n'est pas obligatoire. Donc si une femme se sent capable de faire cette demande d'ordonnance de protection toute seule, elle peut le faire. Attention quand même, c'est une procédure qui est compliquée, il y a des demandes très particulières, il y a des mesures dont parfois on n'imagine même pas qu'elles existent. Je suis pas sûre que tout le monde maîtrise ce qu'est un bracelet anti-rapprochement par exemple. Eh bien si une femme n'est pas accompagnée par un avocat, ça peut être un peu difficile à faire toute seule. Donc vraiment, vraiment mesdames, s'il y a besoin, vous n'hésitez pas. Stéphanie vous le disait tout à l'heure, il y a des maisons des femmes, il y a des consultations juridiques gratuites, des avocats, vous tapez dans une poubelle, il y en a 10 qui sortent, on est 500 sur le barreau du Val-d'Oise à votre service. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez pousser la porte d'un cabinet d'avocat, vous trouverez toujours un avocat réactif pour pouvoir tout de suite vous rédiger une demande d'ordonnance de protection et vous aurez obligatoirement un juge réactif parce que là, il n'aura pas le choix pour venir vous répondre en moins de 6 jours.
Alors, vous avez à juste titre rappelé que nous étions 500 avocats sur le barreau du Val d'Oise qui dispensent donc des consultations dans les maisons du droit, dans les mairies, au palais de justice. Il y a aussi des consultations juridiques gratuites. Vous avez la possibilité sur le site internet de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, la possibilité d'accéder à l'annuaire des avocats en cherchant par spécialité, par activité dominante, même par lieu d'exercice, enfin lieu des cabinets. Et je rappelle aussi que vous avez ce dispositif de l'aide juridictionnelle auquel vous pouvez être accessible en fonction de vos revenus. Est-ce que l'une de vous veut dire un mot aussi sur la protection juridique ?
Alors déjà, une petite précision sur l'ordonnance de protection, vous aurez toujours droit à l'aide juridictionnelle. Sur l'OP, agit à tout coup.
Merci,
vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si vous avez les sous pour financer l'avocat. L'AJ, elle marche à chaque fois sans plafond de ressources.
Très bien. Merci beaucoup pour cette pertinente précision. Et sur les protections juridiques, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a même des assureurs qui avaient communiqué, sans citer de nom, sur ce dispositif de prise en charge par l'assurance protection juridique des procédures en cas de violence intrafamiliale, je crois.
Ça se développe de plus en plus. C'est pas encore le cas de toutes les assurances, mais certaines le font. Et il y a effectivement maintenant une possibilité de prise en charge par vos contrats d'assurance. Pendant très longtemps, les affaires familiales, elles ont été laissées de côté dans les contrats d'assurance juste parce qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'en région parisienne, c'est 1 couple sur 2 qui se sépare. C'est un couple marié sur 2 qui divorce. C'est 1 sur 3 quand on est en région, mais sur la région parisienne, c'est 1 sur 2. Donc le volume est tel que les assureurs avaient laissé de côté tout ce pan du droit. Ils sont d'accord pour venir à votre secours si vous avez un accident de la route, ils sont d'accord pour venir à votre secours si vous avez un dégât des eaux, mais ils n'étaient pas d'accord pour venir à votre secours si vous aviez besoin de vous séparer de votre conjoint. Alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément de prise en charge pour toutes les séparations, mais en tout cas, pour les femmes victimes de violences, il y a maintenant de plus en plus d'assurances, et c'est effectivement très heureux, qui viennent permettre une prise en charge effective.
Voilà, donc il existe beaucoup de dispositifs qui vous permettent de supporter les frais d'assistance d'un avocat. J'en profite aussi pour rappeler que les honoraires des avocats sont libres, que chacun détermine ses tarifs, mais peut-être Marion, à votre qualité d'ancien membre du Conseil de l'Ordre, rappeler que les honoraires doivent être, comment on dit
il y a un mot,
modéré, proportionné aux prestations. Voilà, donc c'est important de le rappeler aussi à ce micro. Les avocats, voilà, fixent librement leurs honoraires, mais doivent effectivement respecter un certain principe. Voilà, toute facturation doit être proportionnée aux diligences qui sont effectuées.
Et puis le fait que les honoraires soient libres, ça veut dire aussi qu'on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que si dans un dossier, on a envie de facturer davantage, parce que c'est une cession d'entreprise, par exemple, parce que c'est un dossier qui nous paraît financièrement confortable, eh ben on va peut-être pouvoir facturer celui-là davantage. Et quand on va avoir une femme en difficulté qui va toquer à la porte de notre cabinet, si elle n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle, ben on peut le faire gratuitement. On a le droit. Et je crois que la majorité des avocats du barreau du Val d'Oise interviennent régulièrement, ce qu'on appelle pro bono, c'est-à-dire que on fait ce qu'on veut. Et finalement, eh ben, si on a envie de faire du bénévolat sur certains dossiers, eh ben on le fait et ça nous permet éventuellement de nous rattraper sur un dossier qui peut-être a moins d'impact humain. Mais voilà, faut aussi rappeler que les avocats, l'humanité, c'est aussi un des grands mots de notre serment.
Oui, mais vous avez raison de le rappeler. Et puis, c'est une matière aussi où, là, pour le coup, on est dans de l'humain, on est dans de la détresse. Et donc, nous sommes par définition, en tant qu'avocats, sensibles à ça. Sinon, on n'aurait pas choisi ce métier, je pense. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale avant de poursuivre cette émission « Tous les droits consacrés aujourd'hui aux violences intrafamiliales ». Restez avec nous.
Rien ne serait pareil, comme l'éclat dans mon irréel. Pour découvrir la flamme jumelle, les premières larmes, les premières peines. Sans toi j'aurais jamais osé laisser les chagrins de l'autre côté. Tu fais sortir ce que j'ai de meilleur, devenue femme, devenue reine.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits. Mes invités du jour sont avocates en droit de la famille et en droit pénal. Elles assistent des victimes ou des auteurs et nous parlons ce matin des violences intrafamiliales. Nous poursuivons notre émission en répondant aux questions nombreuses reçues des auditeurs. Maître Stéphanie Grandjean, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les obligations qui pèsent sur les tiers, donc les médecins, les enseignants, les travailleurs sociaux, en matière de signalement, et quelles sont les sanctions en cas de manquement à ces peut-être obligations de signalement?
Alors, concernant ces obligations, effectivement, aujourd'hui, il y a une obligation de faire un signalement dès lors qu'il y a des signes de maltraitance chez un enfant ou chez dans le foyer de cet enfant ou de cette femme victime de violence. Alors, ça va peser sur l'institution de l'éducation nationale. Très souvent, il y a une remontée, d'ailleurs, par ce biais-là. Et vous avez aussi des obligations qui sont faites pour des personnes qui sont astreinte à un secret professionnel extrêmement fort, les médecins. Donc là, ça articule deux choses totalement différentes, deux contradictions. Et le secret professionnel, où je dirais que ce qui se passe dans un cabinet médical est sacro-saint et rien ne doit passer la porte de ce cabinet médical. Et l'obligation de signaler toute personne qui est en danger. Alors, concernant notamment ce problème d'articulation avec le secret professionnel, le législateur a prévu qu'il y avait une levée de ce secret professionnel lorsqu'il y a danger. Donc ils ont une obligation de signalement, notamment le corps médical. Ce qui est difficile pour eux, et je le comprends, puisque ça va à l'encontre même de l'essence de leur profession, et à tel point que les ordres ont... Donc moi j'ai sorti un petit peu ce que j'ai pu trouver, et vous avez le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a élaboré un livret du signalement médical, parce qu'il faut sensibiliser les médecins, parce qu'on peut comprendre leur frilosité, parce qu'ils ont peur aussi peut-être des conséquences de faire un signalement. Est-ce qu'il est suffisamment étayé ou pas? Est-ce que c'est moi qui estime une situation dangereuse alors qu'elle ne l'est peut-être pas forcément? Quelles sont les conséquences juridiques et notamment judiciaires pour la personne en question? Et puis surtout, mettre à mal ce secret professionnel. Donc c'est vrai que le fait de le lever pour dans ce type-là, pour les violences conjugales, peut permettre aux médecins de se dire que quelque part ils vont perdre aussi la confiance de ces femmes qui sont victimes, qui s'ouvrent auprès de leurs médecins parce que ils ont ce secret professionnel. Donc elles peuvent leur parler sans aucune crainte de ce que l'auteur des violences soit informé de ce qu'elles peuvent dire dans le sein de ce cabinet. Et les médecins ont aussi un peu peur de perdre ce lien de confiance, et en fait que je dirais que les conséquences soient plus néfastes que ce qu'on a voulu mettre en place, avec cette perte de confiance, avec des femmes qui ne vont peut-être plus forcément s'ouvrir auprès de leur médecin, qui vont continuer à inventer une chute dans l'escalier, d'avoir mal à la tête parce qu'on va pas très bien, mais pas du tout parce qu'on est victime d'un harcèlement moral de la part de son conjoint. Donc c'est un sujet qui est extrêmement délicat pour les professionnels, plus facile pour l'éducation nationale parce que, bien évidemment, les professeurs n'ont pas de secret professionnel. Donc ils sont au quotidien avec les enfants, donc ils peuvent avoir plus de recul et plus de matière à pouvoir détecter un changement de comportement ou des bleus à répétition, ou un enfant qui se recroqueville sur lui-même alors que c'était un petit rayon de soleil au début de l'année scolaire. Mais pour les autres professionnels qui ont ce secret professionnel, c'est plus délicat, mais c'est nécessaire aussi. Parce qu'il faut trouver ce juste équilibre entre urgence, entre une personne qui est en danger immédiat de mort ou pas, ou de violence, et la volonté de garder cet espace sacré de parole pour une personne qui est victime. Alors pour les sanctions, c'est que si vous ne faites pas ces signalements, bien évidemment, on peut rechercher votre responsabilité. Donc encore une fois, l'équilibre il est difficile à trouver, et c'est pour ça que je pense que l'Ordre des médecins a pris la mesure avec ce petit livret à destination de leurs professionnels, qui leur donne des critères, des cases à cocher et des signalements types avec des cases à remplir, pour pouvoir évaluer et d'une part l'urgence, et d'autre part pouvoir rédiger comme il faut à destination, puisque c'est à destination du procureur de la République qui lui prendra les mesures nécessaires.
Merci pour toutes ces précisions. Maître Marion Ménage, vous vouliez réagir sur ce point?
Oui, parce que là, on parlait du signalement par les professionnels. Je voudrais quand même rappeler qu'on est tous concernés, qu'on est tous solidaires et qu'on vit pas chacun dans une bulle. Donc, si vous entendez des coups chez votre voisin, si vous entendez un enfant pleurer, si vous entendez une femme crier, il faut intervenir. C'est pas uniquement sur les professionnels de santé et les professionnels de l'éducation nationale que ça repose. C'est aussi de la responsabilité de chacun. Et on a quand même deux articles qui peuvent venir intervenir si vous ne le faites pas. D'abord, il y a la non-dénonciation de crime ou de délit, et ensuite, il y a la non-assistance à personne en danger. Donc je crois que c'est aussi important de le rappeler, c'est aussi un devoir de citoyen. On vit tous ensemble, et le bien vivre ensemble, c'est aussi juste de s'assurer que ses voisins vont bien. Et si on a l'impression que c'est pas le cas, ça vaut peut-être le coup d'intervenir, d'aller voir, de toquer à la porte ou d'appeler le 17, parce que on ne laisse pas les gens dans une situation de danger en se disant « Non, mais finalement, ça me concerne pas, c'est entre lui et sa femme. » Non, bien sûr qu'on est tous concernés par ça et qu'on doit tous se sentir concernés par ça.
Donc le réflexe, si on pense ou qu'on assiste même à des scènes de violence, c'est de contacter donc le 17.
Alors, c'est d'intervenir si on peut le faire sans danger pour soi et pour les autres. Mm-hmm. C'est pas toujours facile, mais le réflexe le plus simple, c'est de décrocher son téléphone portable. On a tous, tout le temps, notre téléphone à portée de main, et vous composez le 17 police secours, et là vous aurez forcément quelqu'un au bout du fil.
Mais alors ces questions de, voilà, de dénoncer ou d'intervenir, finalement c'est aussi le questionnement des médecins qui sont souvent des médecins de famille, donc qui peuvent recevoir et la victime et l'auteur, donc se retrouver dans des conflits de loyauté énormes. C'est quand même, je pense, enfin c'est mon analyse, la principale difficulté de ces violences intrafamiliales, c'est que quand on dénonce, qu'est-ce qui se passe après? C'est des familles qui éclatent et des enfants qui sont séparés des parents, et c'est pour ça que les signalements sont peut-être pas plus nombreux, que les choses mettent du temps aussi à se mettre en place quand il faut organiser la cellule familiale après les dénonciations des faits de violence. D'ailleurs, maître Stéphanie Grandjean, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe devant le juge des enfants en cas de maltraitance? Voilà, parce que une fois que le signalement est fait, si on prend le cas des enfants, qu'est-ce qui se passe devant le juge des enfants?
Ah bah, il se passe plein de choses. Il peut se passer en urgence une ordonnance de placement provisoire. Donc là, je dirais que c'est vraiment la solution la plus extrême, c'est-à-dire qu'on vient chercher à la sortie de l'école ou au domicile. Les forces de police arrivent avec le personnel de l'aide sociale à l'enfance, viennent prendre les enfants et les placent. Alors selon l'âge, vous avez en pouponnière, vous avez dans différentes structures. Et ensuite, on discute dans le bureau du juge des enfants, passer un délai de 12 jours. Autrement, vous avez d'autres armes, entre guillemets. Vous avez d'abord la mesure d'investigation judiciaire, c'est-à-dire que si les choses ne sont pas aussi clairement définies que pour une ordonnance de placement provisoire, il y a une enquête qui est faite par les services sociaux, ce qu'on appelle les services sociaux, pour essayer d'évaluer. Est-ce que véritablement il y a maltraitance? Est-ce qu'il y a négligence? Parce que la négligence des enfants, c'est aussi une maltraitance. Ne pas s'en occuper, les laisser à la dérive, ne pas les nourrir correctement, tout ça, c'est aussi une maltraitance concernant les enfants. Vous pouvez avoir une assistance éducative qui peut être mise en place, donc des professionnels qui viennent apporter un soutien à la parentalité des parents. Et ce qu'on voit aussi, notamment à Pontoise, moi je parle de Pontoise, c'est quelquefois une saisine du juge des enfants qui est faite directement par le juge aux affaires familiales. C'est-à-dire que si devant le juge aux affaires familiales, il s'avère qu'il y a une situation de violence intrafamiliale, vous avez certains juges des enfants qui font redescendre, alors nous on dit redescendre le dossier parce que au premier étage vous avez les affaires familiales et au deuxième étage vous avez le juge des enfants. Et vous avez des redescendre de dossier, on a une saisine du juge des enfants pour qu'il puisse venir voir un petit peu tout ce qui se passe et pour pouvoir mettre un peu à plat toutes ces difficultés qu'il peut y avoir au niveau intrafamilial. Donc vous avez ces deux partenaires qui se sont mis en place, notamment à Pontoise, encore une fois, où les étages ne sont pas hermétiques. C'est-à-dire que si on dénote dans un dossier qu'il y a des maltraitances, qu'il y a des violences, qu'il y a des négligences, qu'il y a un conflit parental aussi majeur qui laisse au milieu des enfants qui sont totalement démunis face à un papa et une maman qui ne peuvent plus du tout s'entendre, qui se détestent, qui s'envoient des noms d'oiseaux à longueur de temps, c'est les enfants qui trinquent, ce sont eux aussi qui sont victimes. Ça aussi, ce sont des violences intrafamiliales. Vous avez la possibilité d'aller devant le juge des enfants et lui mettra un petit peu à plat tout ça et essaiera et de trouver des solutions pour que l'enfant puisse évoluer dans un univers quand même moins toxique et plus sécure pour lui-même et pour son intégrité psychique.
Donc il y a des mesures de protection des enfants, placement ou assistance de mesures éducatives avec des éducateurs qui peuvent être désignés pour intervenir et voir comment tout se passe à la maison. Bon, est-ce qu'on peut dire que le système est bien conçu, mais qu'après il n'y a pas toujours les moyens qui suivent
On a toujours en France des belles lois. On a toujours des bons textes. Pour ça qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, une actualité, on vous dit « Oh, on va faire une nouvelle loi ». Non, stop, on en a suffisamment. Par contre, on a un problème, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, un problème de moyens, un problème de personnel. Et effectivement, on a ce qu'il faut. Le juge des enfants peut décréter une mesure d'assistance éducative, mais très souvent, entre la décision et le début de la mesure éducative peuvent s'écouler de longs mois parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'on n'a pas suffisamment de professionnels, parce que, toujours la même chose. Tant qu'on n'aura pas les moyens, on pourra pas mettre tout ça en place.
Bon, on en revient toujours à ce refrain, mais c'est une réalité et c'est important que les auditeurs le comprennent bien. Il existe des dispositifs, vous l'avez rappelé, des juges, des avocats, des éducateurs, mais pas en nombre parfois suffisant.
Tout à fait.
Et donc les délais et le sentiment que ça n'avance pas toujours, il y a une explication. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas celle-ci, elle doit pas être occultée. En tout cas, je crois que c'est important de le rappeler régulièrement aussi à ce micro. Merci pour toutes ces précisions, maître Stéphanie Grandjean. Maître Marion Ménage, pour terminer cette émission, j'ai encore quelques questions pour vous. Alors, beaucoup de victimes hésitent à agir. On entend souvent ça dans les médias, dans nos cabinets, par peur d'abord de ne pas être crue ou parce que finalement, les victimes, que ce soit la femme, les enfants a fortiori, elles dépendent toujours financièrement, quand c'est le papa ou le conjoint, de cet homme-là. Est-ce que vous pourriez rappeler, on l'a déjà évoqué un peu au cours de cette émission, mais quels sont les droits et les protections que la loi garantit à ces victimes aujourd'hui ?
Alors, sur le sujet très précis des violences conjugales, là, pour le coup, on a mis ces dernières années beaucoup de choses en place. Il existe, par exemple, le PAC Nouveau Départ. Ça, c'est un élément qui permet à des lanceurs d'alerte, à des repéreurs, appelons-les comme ça. Ça peut être un pharmacien, ça peut être une assistante sociale, ça peut être le commissariat, de proposer à la femme d'intégrer ce PAC Nouveau Départ, ce qui va déclencher tout un tas de mesures, tout un tas de verrous qui vont sauter les uns après les autres. On va pouvoir, il y a un partenariat avec la CAF, mettre en place des aides financières immédiates. On va pouvoir, il y a un partenariat avec le 115, trouver un logement d'urgence. On va pouvoir, mettre en place tout un tas de mesures qui vont pouvoir venir avec différents interlocuteurs, se mettre en place autour de la femme qui a besoin d'être protégée, et notamment des mesures financières. Parce que effectivement, c'est parfois, souvent, le nerf de la guerre. Et c'est toujours une grande inquiétude pour nos clientes de dire, mais si je pars, qu'est-ce que je fais? Eh bien, avec ce PAC Nouveau Départ, le partenariat avec la CAF, il fonctionne très bien. Et on a une aide financière d'urgence qui se met en place tout de suite. On a même une loi en 2023 qui est venue créer une aide d'urgence qui permet d'avoir un vrai déblocage de fonds. Et suivant les situations, ça va être soit un prêt sans intérêt, donc qu'il faudra effectivement rembourser un jour, soit un don. Si vraiment la situation financière de cette femme est catastrophique, c'est pas forcément un prêt. Ça peut être véritablement une somme d'argent qui lui est donnée sans qu'elle ait besoin jamais de la rembourser. Donc on a des dispositifs qui se mettent en place. L'inquiétude autour de est-ce que je vais être crue, là pour le coup c'est beaucoup plus difficile parce qu'on encourage depuis MeToo, on encourage les femmes à parler. Pour autant, ce qui est en intrafamilial, ça reste du domaine de l'intime. Ça se passe évidemment entre les quatre murs d'une maison. Alors parfois, quand on sort avec un cocard, les autres le voient. mais ça se voit pas toujours. Et les violences intrafamiliales, elles sont pas toujours visibles, que ce soit des violences physiques ou des violences sexuelles. Ça peut aussi être des violences psychologiques. Et c'est souvent des violences qui sont très invisibilisées. Et la difficulté, ça va être après de réunir les preuves. Donc je comprends cette inquiétude des femmes qui est de dire, mais si je pousse la porte d'un commissariat, est-ce que je vais être crue? C'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est pas les dossiers dans lesquels les preuves elles sont les plus évidentes, et c'est aussi pour ça qu'on a affaire à des dossiers qui sont des dossiers longs, parce que après le recueil de la parole, et ça je pense que on s'est quand même largement amélioré ces dernières années, on a maintenant des policiers, des gendarmes qui sont quand même formés à accueillir la parole des femmes. Alors c'est pas encore parfait partout hein, mais on progresse quand même largement. Après, il faut réussir à venir l'étoffer, cette parole. C'est-à-dire que, au-delà du dépôt de plainte, il va y avoir quand même un petit bout d'enquête qui va se mettre en place pour essayer d'aller voir peut-être l'environnement immédiat, les voisins, le médecin, l'école, comment vont les enfants. Est-ce qu'on arrive à avoir des éléments un peu périphériques qui vont venir appuyer la parole de cette femme? Et la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que tous ces petits actes d'enquête, eh ben, ils prennent un temps infiniment long. Et que pendant ce temps-là, ben, on ne va pas chercher l'auteur. On ne va pas le confronter, à ce dépôt de plainte. Alors, j'ai envie de dire heureusement. Parce que si on a la parole de la femme, zéro élément périphérique pour venir le corroborer. Et qu'on va tout de suite chercher l'auteur. Et qu'il vous dit, bah non, j'ai rien fait. Eh ben, on n'a rien à lui opposer. Donc, c'est important qu'au-delà du recueil de la parole de la femme, on ait des éléments d'enquête, parce que ça va venir faire bloc, et que le jour où on ira chercher l'auteur, s'il nous dit « bah non, j'ai rien fait », on puisse lui mettre sous le nez les témoignages des voisins, le témoignage de l'institutrice, les certificats médicaux qui viennent corroborer, les résultats scolaires des enfants qui ont dégringolé, le fait que la petite, eh ben, depuis qu'elle va chez le psy, la parole s'est libérée. Si on va trop vite, on n'a pas ces éléments-là, mais si on se laisse le temps de les réunir, est-ce qu'on perd pas trop de temps ? Et puis, je rejoins évidemment ce que vous disait Stéphanie Grandjean à l'instant, on a un manque criant de moyens. Donc, on n'a pas assez de policiers, on n'a pas assez de gendarmes pour recueillir les paroles. Et quand les dépôts de plainte y sont faits, on n'a pas assez de personnes pour les traiter. Et ensuite, on n'a pas assez d'enquêteurs pour aller sur le terrain, recueillir la parole du médecin, la parole de l'institutrice, la parole des voisins. Une actualité chasse l'autre. Et si vous avez un dépôt de plainte d'une femme le lundi, mais que le mardi, vous avez un trafic de stupes, ou que le mercredi, vous avez un accident de la route, eh ben, hop, la brigade, elle est mobilisée sur autre chose. Donc, c'est très compliqué. Les experts ne sont pas suffisamment nombreux. Donc, dès qu'on demande une expertise, ça prend un temps infiniment long. Et la difficulté, c'est que pendant ce temps-là, il se passe rien. Alors, il se passe rien pendant quelques semaines, le temps qu'on ait une enquête, ça me va. Si c'est, il se passe rien pendant quelques mois, je veux encore bien attendre un peu, mais quand c'est, il se passe rien pendant des années, là, c'est non. Et c'est là qu'on est en train de tirer la sonnette d'alarme. L'actualité récente nous l'a illustré. Cette dramatique affaire de la petite Liana est venue mettre en lumière qu'il y avait eu des plaintes avant et qu'elles n'avaient pas été traitées jusqu'à leur terme, et que ces plaintes n'avaient pas abouti. Et peut-être qu'on aurait pu éviter ça si tout avait été traité en amont. Peut-être pas, j'en sais rien, les enquêtes le démontreront. Mais en tout cas, c'est venu mettre un coup de projecteur là-dessus. Mais nous, ça fait des années qu'on tient la sonnette d'alarme. On passe à côté de choses et on laisse se commettre de nouvelles infractions parce qu'on n'est pas intervenu suffisamment vite. Mais pour pouvoir intervenir, faut des gens sur le terrain, faut des budgets, il faut donner de l'argent aux services de police, de gendarmerie et de justice pour qu'on ait les moyens de travailler correctement et de venir enfin protéger efficacement ces femmes. Libérer la parole, c'est bien, mais cette parole, il faut un, l'entendre, et deux, il faut en faire quelque chose.
Merci pour ces précisions et puis bah oui pour votre sentiment et votre vécu hein. Nous aussi on est dedans et nous aussi on voit bien ce qui s'y passe dans ces tribunaux et sur ces terribles affaires. Maître Stéphanie Grandjean, vous vouliez réagir?
Alors oui, moi je voulais dire que depuis tout à l'heure on parle des femmes victimes de violences conjugales, des enfants, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Il faut pas alors bien évidemment, proportionnellement, il y en a beaucoup moins. C'est pas simplement parce que une femme peut-être moins violente qu'un homme, pas du tout. C'est aussi, je dirais, une problématique pour les hommes de pousser la porte d'un commissariat par peur du ridicule, parce qu'on est encore dans une société assez machiste, hein, et que quand on dit, on a un homme qui vient vous dire qu'il se fait gifler régulièrement par son épouse, on lève un sourcil, on sourit d'ailleurs un peu en coin en se disant, oh, pff, franchement, s'il se laisse mener comme ça par sa femme, donc pas du tout. Et s'il y a des hommes qui écoutent, leur dire que ce n'est pas ridicule, ce n'est pas honteux. La souffrance, elle n'est pas que d'un côté, elle n'est pas que chez les femmes, elle peut être aussi chez les hommes. Et qu'il est important aussi pour eux de venir s'exprimer quand ils sont victimes, parce que les dégâts sont tout aussi importants chez un homme que chez une femme qui est et qui sera victime de violences conjugales. Il ne faut pas laisser s'installer ça. Il ne faut pas penser que on est responsable parce que on n'est pas un vrai homme. Donc pas du tout. Et voilà, c'est simplement ce point-là que je voulais aujourd'hui préciser.
Donc vous avez absolument raison de le rappeler. C'est vrai que statistiquement, bon, les violences s'exercent plus des hommes sur les femmes, mais il y a effectivement des dossiers où c'est l'inverse. Ils ont tout à fait les mêmes droits que les femmes victimes de violences. Vous avez raison de le rappeler. Maître Marion Ménage, je voulais juste, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les voies et les modalités d'indemnisation pour les victimes? Est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour obtenir une indemnisation une fois que les auteurs ont été condamnés?
Alors, il existe en France un système qui s'appelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Appelons-la la CIVI, ça ira plus vite. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour venir indemniser les victimes des infractions les plus graves. Donc, au départ, elle est conçue pour les victimes de meurtres, les victimes de viols, les victimes d'agressions sexuelles ou les victimes de violences qui ont un arrêt de travail monumental. Eh bien, ce mécanisme, il s'est élargi aux femmes victimes de violences conjugales ou aux hommes victimes de violences conjugales. Et donc aujourd'hui, la CIVI, elle permet de venir indemniser. Elle travaille avec le fonds de garantie, qui est un fonds financier alimenté par tous nos contrats d'assurance, que ce soit les vôtres, Sonia, les miens ou ceux de tous nos auditeurs. Sur chacun de vos contrats d'assurance, messieurs, dames qui nous écoutez, vous avez un petit pourcentage qui est prélevé et qui va alimenter ce fonds de garantie. Ce fonds de garantie, il va venir payer la victime à la place de l'auteur. Le fonds de garantie, il a une qualité majeure. D'abord, c'est qu'il a des sous. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il est patient. Donc, il n'est pas pressé de se faire rembourser. Et s'il faut aller prélever 5 euros par mois pendant des années, s'il faut aller prélever 10 euros par mois pendant des années sur le compte bancaire de l'auteur pour rembourser le fonds de garantie, bah, le fonds de garantie, il le fera. Mais au moins, on n'imposera pas ça à la victime. Et elle n'aura pas besoin d'attendre des années à coût de 5 euros par mois. Et puis, à coût de petits virements sur son compte en banque qui lui rappelleront que l'auteur existe et qui lui fait des virements tous les mois, ce qui n'est pas très agréable pour une victime. Là, pour le coup, c'est le fonds de garantie qui paye. Et puis, lui, après, il se fait rembourser très tranquillement. Et donc, c'est une possibilité qui est ouverte aux victimes de voir leur préjudice indemnisé, même si l'auteur n'est pas solvable, parce que bah, malheureusement, on ne se fait pas toujours taper dessus par un milliardaire, et parfois c'est compliqué quand les dommages et intérêts sont importants. L'auteur, il n'a pas forcément les moyens de payer ce qu'il doit, et bien là, au moins, c'est le fonds de garantie qui prend en charge et puis qui ira, lui, très tranquillement se faire rembourser après, mais au moins, la victime, elle aura eu son indemnisation.
Oui, et c'est important de rappeler qu'il y a ce volet-là aussi. Il y a les condamnations pénales et puis après, il y a les condamnations à des dommages et intérêts, avec des préjudices souvent très lourds, vous l'avez rappelé. Donc finalement, les sanctions, elles sont là aussi. C'est des sanctions financières qui peuvent être très importantes.
Oui, c'est des sanctions qui sont importantes. Et puis en fait, on n'a pas d'autre moyen de réparer. C'est-à-dire que j'adorerais avoir une baguette magique et dire à mes clients, bah, vous inquiétez pas, une fois que le jugement sera passé, ça ira mieux. On va faire en sorte que tout ça n'ait jamais existé. Bah non. En fait, ce qui s'est passé, c'est passé. Et malheureusement, le seul moyen de venir réparer ça, c'est de l'argent. Donc l'indemnisation, elle est importante. Elle est importante pour les victimes qui ont le droit de voir leur préjudice entièrement indemnisé. Puis elle est importante pour l'auteur, parce que c'est important aussi de réaliser que ce qu'on a commis, bah, ça a impacté en face. Alors oui, un cocard, c'est pas joli, ça fait une marque au visage, mais à la limite, ça dure quelques jours et ça s'estompe. Par contre, les blessures de l'âme, elles sont beaucoup plus difficiles à venir soigner, et ça aussi, ça s'indemnise. Et c'est important aussi pour l'auteur, et bah, de se dire que même si c'est pas la victime qu'il va venir indemniser directement parce que le fonds de garantie l'aura fait pour lui, lui, il va payer le fonds de garantie, et il va le payer longtemps, et il va le payer de façon échelonnée, et il va le payer pendant plusieurs années. Et à chaque fois qu'il y aura un petit prélèvement sur son compte en banque, bah, ça lui rappellera que la fois où il a fauté, et bah, finalement, ça a des conséquences, et des conséquences qui durent dans le temps. C'est des conséquences qui durent dans le temps pour la victime, mais ça permet aussi que ce soit des conséquences qui durent dans le temps pour l'auteur. Et finalement, ça a quand même une petite vertu pédagogique aussi.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions pertinentes. Notre émission s'achève. Merci à vous deux d'être venus au micro de Tous les Droits pour parler des violences intrafamiliales. Merci encore Marion Ménage. Merci encore Stéphanie Grandjean. Maître Marion Ménage, est-ce que vous reviendrez nous voir? Est-ce que vous avez un dernier mot à l'attention de nos auditeurs?
Alors, je reviendrai avec grand plaisir. Un dernier mot, oui, parce que l'actualité récente de cette petite Liana qui a bouleversé toute la France, elle a généré quelque chose d'extraordinaire. Elle a généré un élan. Il y a eu des rassemblements devant nos tribunaux. À 19h, le lundi qui a suivi, les gens se sont regroupés. J'ai trouvé ça très beau, cet élan de vivre ensemble, de solidarité, de sororité aussi, parce que c'était quand même très féminin, tous ces rassemblements. Mais cet élan de ras-le-bol aussi, de dire plus jamais ça, de dire il y en a assez, de dire protéger nos enfants. Je voudrais que cet élan y continue, mais il continue de façon positive. Notre justice, elle a besoin de nous. Elle va pas bien, elle manque de moyens, mais elle a besoin qu'on la soutienne. Nos magistrats, ils bossent comme des dingues et ils ont besoin qu'on soit là à leur côté. Et moi, c'était ça que je voulais dire à nos auditeurs. Ne laissez pas cet élan-là retomber parce que c'est un élément important, c'est un élan qui est porteur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce vivre ensemble, il est positif. Et juste, s'il vous plaît, ne soyez pas contre votre justice. Elle a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien. Il faut que vous soyez avec elle et pas contre elle.
Merci, vous avez raison de le rappeler. Et puis la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Les jurés d'assises, eh ben c'est nous tous, c'est les citoyens. Vous êtes de la justice, vous faites œuvre de justice. Et je vous remercie pour ce rappel extrêmement pertinent. Maître Stéphanie Grandjean, est-ce que vous avez vous aussi un message à délivrer à nos auditeurs ?
Bah déjà, je vous remercie de cette invitation. Un dernier mot, j'irai pour revenir un petit peu sur ce que disait Marion. Effectivement, la justice a besoin de tout le monde. Et je saluerai aussi le fait que le plaidé coupable en matière criminelle soit aujourd'hui dans un tiroir, en espérant qu'il y reste le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des victimes. Et ces victimes, elles ont besoin de s'exprimer. Et cette expression se fait devant les juridictions. Et ce n'est pas en négociant une peine dans un petit bureau que, premièrement, l'opinion publique comprendra cette peine, puisqu'on ne l'aura pas discutée en audience public, donc on ne pourra pas la motiver et l'expliquer. Et deuxièmement, ce sera encore une fois brimer la parole des victimes qui ont besoin à la barre de des cours criminels ou des cours d'assises, de venir dire à haute voix à tout le monde ce qu'elles ont enduré, ce qu'elles ressentent, de pouvoir confronter l'auteur de la souffrance qui est la leur. Et du coup, ben, je suis assez contente. C'est peut-être la seule note positive que je pourrais aujourd'hui relever.
Merci pour ces précisions. Merci à toutes les deux d'avoir été mes invitées. Une émission Tous les droits par vous et pour vous. Je recevrai ainsi le premier lundi de chaque mois des avocats du Barreau du Val-d'Oise qui répondront à vos questions parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Erwan pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée et excellente semaine.